un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
En 2017, le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron, cherchant sans doute des voix un peu partout, déclare à propos de la manif pour tous que c'est une France qui a été, je cite, « humiliée ». 10 ans plus tard, garde-t-on vraiment le souvenir de militants humiliés ? Ne serait-ce pas plutôt les gays et lesbiennes qui les ont sentis passer violemment, ces cortèges originaux, envahissant alors la capitale et brandissant slogans et pancartes contre leur simple existence ? L'esthétique des manifestants, il faut dire, tranche alors avec les codes habituels des mouvements sociaux. Couleur pastel, mocassin, col Claudine, ambiance guindée ou plutôt boy scout. Ça commence le 17 novembre 2012, puis le 13 janvier 2013, une véritable marée rose et bleue entre 340 000 et 1 million de personnes manifestent dans la seule capitale. Et puis il y a encore une autre manif et une autre aussi à Lille, à Bordeaux et à Marseille en parallèle. Des enfants, il y en a beaucoup également, qui battent le pavé en cortège de tête et brandissant des drapeaux et des écharpes bleues et roses sur les épaules de leurs parents. Parmi ces enfants, combien se sont révélés marcher contre leurs propres droits, sans encore le savoir peut-être ? C'est la question que nous posons tout de suite avec Augustin et Claire-Hélène, un reportage de Clémence Alézard, les enfants de la Manif pour tous.
Je m'appelle Augustin, j'ai 21 ans et je suis étudiant à Paris, en philosophie. Je viens du nord de la France, j'ai grandi à Douai et à Lille, et je suis le plus petit garçon d'une famille de 5 enfants. On allait à la messe tous les dimanches, on suivait les rites, on priait beaucoup en famille, on avait un sens de la famille très profond, l'idée d'une tribu très soudée qui est proche aussi des grands-parents, des tantes, des oncles et des cousins, des cousines. À côté de l'importance accordée à la famille, il y avait de l'importance aussi du mariage. Je me rappelle que quand j'étais petit, ma plus grande sœur préparait des faire-part de mariage où à chaque fois qu'elle avait un nouvel amoureux, elle s'imaginait envoyer des faire-part à tous ses amis, à toute la famille pour annoncer le mariage. Et on a grandi dans cet imaginaire-là où le mariage serait la grande fête familiale et l'accomplissement où on pourrait se présenter à tout le monde la nouvelle vie qu'on commence et qui est celle qui a vraiment du sens et qui montre la fin de l'enfance. Dans mes souvenirs, c'est l'église qui a amené dans ma famille le sujet du mariage pour tous et ensuite de la manif pour tous. À ce moment-là, j'ai 10 ans. Les débats sur le mariage pour tous et sur l'importance de la famille, c'est des questions que j'entends à la messe, dans ma famille, au scout, dans le collège privé que je fréquente. Parce que c'est au moment où le gouvernement de François Hollande commençait à faire des déclarations sur la future loi pour le mariage pour tous, que l'Église a réagi en faisant beaucoup de prêches sur la famille. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à entendre parler de la loi et même de l'homosexualité, puisqu'avant j'en avais pas tellement entendu parler. La première manif pour tous à laquelle j'ai participé, c'était la grosse manifestation à Paris, le 13 janvier 2013. Et toute ma famille y est allée depuis Lille à Paris, par un bus qui est parti très tôt de Lille et qui a été affecté par l'antenne de Lille de la manif pour tous. Je me souviens que dans le bus, on chantait. Il y avait beaucoup de gens de la paroisse, finalement, les personnes qu'on voyait le dimanche à la messe, qui étaient les amis de mes parents. Et donc, on chantait des chants chrétiens, et on y allait comme ça, ensemble, en bus. Et ensuite, une fois arrivé à Paris, je me souviens d'avoir été impressionné par le nombre de bus qui circulaient dans la ville pour aller se garer près du lieu de rassemblement. Il y avait vraiment des files entières de bus et de gens qui descendaient. Et ensuite, je me souviens de la découverte des premiers goodies, les drapeaux roses et bleus, les premiers slogans, les pancartes... C'est entré très vite cette idée du rose et bleu, du logo avec les deux parents, le père, la mère, et puis la petite fille et le petit garçon. Et ensuite, on s'était équipé de sifflets et on est parti dans le cortège et on a marché comme ça avec nos sifflets, nos drapeaux, avec mes parents et mes frères et sœurs, et des amis de la famille. Bon, on m'avait dit, la famille est en danger, nous en tant que famille, bien, il faut qu'on aille défendre ce modèle-là, donc moi je... je me disais, bon, bah, c'est parti, quoi. Là, s'il faut défendre ma famille, je vais défendre ma famille. Si ma famille est en danger, je vais me mettre toutes mes forces pour la défendre. Donc, oui, j'ai été de bonne humeur, prêt à faire tout ce qu'on m'aurait dit de faire pour défendre ce dans quoi je grandissais. C'était ma première manif à l'époque. Et je me souviens d'avoir été aussi plusieurs fois choqué par le nombre de gens qu'il y avait, parce que on me mettait un peu en hauteur pour que je voie les avenues pleines, et je voyais des gens avec des drapeaux roses et bleus à perte de vue. Il y avait vraiment énormément de monde. J'identifiais mal qu'on s'opposait aux homosexuels, parce que j'identifiais mal ce qu'était un homosexuel. Et c'est la Manif pour tous qui me l'a fait découvrir, accompagné de toutes les idées que ça avait, c'est-à-dire que c'était... L'homosexualité, c'était contre nature, ça allait à l'encontre de la famille, de la loi de la reproduction, et donc de choses à combattre. Et il y avait beaucoup de discussions sur la famille à table, dans ma famille, et surtout à partir du mariage pour tous. On regardait les infos, on regardait les sondages, tous les lendemains de manif, on achetait la presse pour voir si on n'était pas en photo dans les journaux, parce que on aurait adoré avoir notre tête qui apparaît à la une... de la Voix du Nord. On avait acheté tous des suites avec le logo de la Manif pour tous qu'on mettait très régulièrement. On faisait du sport avec. Une de mes grandes sœurs a une photo de classe où elle porte ce suite. Donc c'était un habit qu'on mettait quotidiennement. Et donc au moment d'aller à la deuxième Manif pour tous, finalement, on ressortait tous nos goodies et on allait à Paris. Et j'ai une image très claire de moi aux Invalides. Donc, j'avais 11 ans et je porte mon suite et mon drapeau. Et un monsieur me prend en photo. Un photographe avec un gros appareil, donc je comprends que c'est un monsieur de la presse, quoi. Et je me souviens d'avoir été hyper content d'être pris en photo. J'ai pris une pose un peu héroïque à la Napoléon avec mon drapeau. Et je m'étais dit, oh, ça se trouve, je vais faire la une d'un journal, voilà. Je sais pas, l'enfant révolutionnaire qui a son drapeau, le Gavroche sur sa barricade avec son drapeau de la Manif pour tous. En fait, j'ai jamais retrouvé la photo. Je sais même pas si elle a été publiée un jour... Et ensuite, la manif s'est faite comme la première. Quand on s'est retrouvé à la fin, ils avaient annoncé plus de 2 millions de manifestants à Paris. C'était énorme. Putain, j'ai sauté dans les bras de mon frère tellement j'étais joyeux. Genre, waouh, 2 millions de personnes à Paris, on est dedans. C'est quand même incroyable. Enfin, en gros, c'est nous la majorité. On fait bien d'être là. Mes souvenirs de l'époque sont joyeux, parce que je me rappelle avoir été joyeux pendant les manifs, mais avec du recul, ils étaient aussi très violents. Je me rappelle notamment de mon père, qui, en plus des slogans, criait des trucs dans la rue qui étaient très homophobes et qu'il avait inventé sur les PD, des trucs racistes sur Taubira, beaucoup. Donc, et moi-même, j'étais assez violent, puisqu'il y avait des contre-manifestants. Et je me souviens notamment d'une manifestation à Lille qu'on avait faite. Il y avait des gens sur un balcon au-dessus de la manif. Deux mecs s'étaient embrassés puis nous avaient montré leurs fesses à tout le monde pour provoquer les manifestants, quoi. Et moi, je me souviens, j'avais dit à ma mère « Ah bah, tu vois, j'aurais dû prendre mon pistolet à billes, je leur aurais tiré dans les fesses et ça leur aurait fait une bonne leçon. » Voilà. Je savais que j'étais dans un combat, qu'il y avait des gens qui étaient opposés à ce qu'on défendait à la manif pour tous. Et que c'était limite une lutte armée, quoi. En lisant, en écoutant ce qu'on nous dit à la fin des manifs, ce que disaient les intervenants, ce que dit la presse, j'avais l'impression d'avoir en main tous les arguments pour m'opposer au mariage pour tous, et plus généralement à l'homosexualité. L'idée de... Moi, j'avais en tête vraiment le contre-nature. Je me répétais toute la journée que, bon... Bah oui, les lions font pas des lionceaux avec d'autres lions, mais avec des lionnes, donc... Donc ça peut pas marcher, la famille peut pas marcher avec des parents du même sexe. Au collège, je me rappelle que je parlais facilement de mes convictions, et je disais facilement que j'étais allé à la manif pour tous le week-end, et en fait j'imposais pas mal de paroles là-dessus, et de la même manière, comme dans ma famille on faisait des blagues homophobes et racistes en permanence, même moi je me permettais d'en faire à mes amis, un humour collégien complètement bête, et on dit PD parce que ça va plus vite, c'est un peu drôle... Je sais pas, un mec qui regarde un autre mec dans les vestiaires, même au collège à 12 ans, bon bah haha, qu'est-ce qu'il y a, TPD, ouais, ce genre de choses, de petit garçon du collège de l'époque qui va absolument se défendre de toute homosexualité, tout ça, tout ça. J'ai quand même un souvenir d'avoir abordé l'homosexualité avec une de mes copines, c'était par rapport à la chanson de Woodkid, Run Boy Run. J'avais découvert que cette chanson que j'aimais beaucoup, parlait en fait d'un petit garçon gay qui doit courir et s'échapper du monde parce qu'il est poursuivi par une bande de haineux homophobes qui veulent sa peau en fait. Et donc Woodkid dit cours, va-t'en, va te réfugier, personne ne veut de toi. Et moi, je me souviens d'avoir dit à cette copine, quand j'étais en 5e ou en 4e, je sais plus, j'adore cette chanson, mais je vais arrêter de l'écouter parce que je suis pas d'accord avec le message. Et ça me gêne de l'écouter sachant que je suis en désaccord avec le message, donc au placard Woodkid. Moi, j'ai jamais eu de désir pour aucune fille. Enfin, jamais, jamais. Et en revanche, à partir du collège, j'ai commencé à avoir un peu ma vie intime secrète, en découvrant le porno, la masturbation, tout ça. Et moi, très vite, dans la découverte du porno, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était les garçons. Mais je le niais complètement, je me disais, bon... Et finalement, les « je suis pas pédé » que je pouvais répéter à mes copains pour rigoler avec eux, je me les répétais à moi-même aussi en permanence quand je constatais que je désirais les garçons dans les vidéos et que je me désintéressais complètement des filles. Je me rappelle très bien que quand j'étais en 3e, des très jeunes prêtres qui venaient récemment d'être ordonnés sont venus intervenir dans notre collège et un de ces jeunes prêtres a dit que lui, avant de se dédier à la prêtrise, il avait traversé une période un peu trouble, où il avait fait des bêtises, il avait pris de la drogue, et il avait même douté de sa sexualité. Et donc moi, ça avait beaucoup résonné, parce que je me suis dit, c'est ça que je vis finalement. C'est l'adolescence, c'est normal, le corps change, les désirs sont tous un peu bouleversés, donc finalement, je traverse une période de trouble, mais tout va finir par se remettre droit, revenir à la normale, se refixer dans la bonne ligne, et je reviendrai un peu dans le droit chemin. À partir de là, j'ai créé toute une petite mythologie, où, en gros, j'aimais personne. Je disais que j'étais égosexuel. C'est-à-dire ni hétérosexuel, ni homosexuel. C'est-à-dire l'amour du jeu, l'amour de moi-même. Voilà, c'était mon grand mythe. J'ai abandonné cette orientation sexuelle inventée quand j'ai quitté ma famille, à la fin du lycée, pour aller faire mes études à Paris. Et donc c'est à Paris, vers 18 ans, que j'ai commencé à avoir mes premières expériences avec des garçons. Et là, ça a tout confirmé, finalement, c'est... Il n'y avait pas d'égo sexuel, il n'y avait rien de tout ça. Non, j'étais gay. Et les manifs ont quand même fabriqué toute une image de l'homosexualité et des LGBTI en général assez dégoûtante. Il y a des automatismes qui sont liés à ma personne pour ne pas avoir l'air gay dans l'espace public. Donc il faudrait restreindre les manières, il faudrait parler d'une certaine manière. Et ensuite, par rapport aux autres, je réagis pas toujours très bien à voir... de garçons ou de meufs s'embrasser, parfois ça me fait un tic, un frémissement, je me dis « Ouh là, c'est pas normal ça, pas devant moi l'image, l'idée de l'image me gêne parfois, je trouve ça pas beau, je trouve ça pas bien, j'ai pas l'impression que c'est la bonne chose à faire. J'aime pas voir... il m'arrive de ne pas aimer et d'avoir des réactions négatives au fait de voir deux garçons ensemble... d'imaginer une sexualité homo et tout ce qui n'est pas dans le schéma que j'ai appris en grandissant. Et ma famille a été aussi amenée à réfléchir sur ce qu'on avait fait au moment du mariage pour tous, au moment du divorce de mes parents, puisque finalement le modèle familial qu'on défendait et l'idéal familial qu'on avait l'impression d'incarner, il s'est complètement effondré. Aujourd'hui, je ne parle plus à mon père et mon père n'a plus aucun lien avec tout le reste de ma famille. Il y avait énormément de violence à l'intérieur de ma famille. Il y en a toujours. Et finalement, la manif pour tous a retardé le moment où tout le monde pourrait se libérer de ce modèle familial qui n'a pas fait du mal qu'à moi, mais vraiment à ma mère et à mes sœurs aussi. Je ne sais pas si je pourrais me marier avec mon copain. L'idée me plaît. Parce que j'aime bien les mariages, j'aime bien les moments de fête. De là à ce que je le fasse, en regardant dans mes yeux mes frères et sœurs, ma mère... Ça reste dur de supporter le regard de sa famille dans toutes les actions qu'on fait à l'encontre de ce pourquoi on a été élevé.
Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle Claire-Hélène, j'ai 30 ans, j'habite à Nantes. Mon père est agriculteur en Bourgogne, dans le nord de la Bourgogne. Ma maman est mère au foyer. Je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Donc j'ai grandi dans un environnement catholique, croyant et pratiquant. Donc voilà, un environnement où très peu de divorces, où le mariage fait institution dans notre famille, où tous les couples sont mariés. Moi, j'ai grandi dans cet état d'esprit, avec un moment à mes 14 ans où je me rends compte que je suis amoureuse d'une fille. Alors, je l'ai rencontrée dans le scoutisme. Elle était dans la même équipe que ma sœur aînée. J'avais 14 ans et elle avait 18 ans. C'est la première fois que je ressentais des sentiments très forts pour quelqu'un. Donc c'était beaucoup de correspondance à s'écrire avec les moyens de l'époque. J'avais pas de téléphone portable et mes scènes commençaient tout juste. Donc c'était très compliqué, on se voyait très peu, etc. Mais je sentais vraiment des sentiments un peu forts comme une première relation. D'ailleurs, il y a Colette qui dit « on ne souffre que de son premier amour » et je crois qu'elle a bien raison. Quand on a 14 ans, on a des amis qui commencent aussi à avoir des relations, qui, avec des copains, on me pose des questions. Est-ce que j'ai un copain? Bah, je leur dis oui. Du coup, j'invente une identité, un prénom, même une photo, un visage. Ou alors, j'évite les questions. Voilà. Alors, mes parents se rendent compte de cette relation car elle vient à la maison voir ma sœur. Et on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et donc ça commence à leur mettre un peu la puce à l'oreille qu'il se passe quelque chose. Et un jour, ils m'ont pris à part et me demandant ce qui se passait. Et surtout, on me disait « Mais Claire-Hélène, tu n'es pas homosexuelle. Tu es ma fille, je te connais, je sais qui tu n'es pas comme ça. » Et donc, on dit « Bah, quand on est d'accord, parce que la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de vous faire plaisir et j'ai surtout pas envie de faire de la peine à mes parents. » Et les années se passent jusqu'à mes 18 ans, où la relation s'arrête, voilà. Et là, je décide de me dire que la seule solution que je peux pour vivre bien, c'est surtout d'essayer d'avoir des relations avec des garçons. Donc c'est ce qui se passe, je rencontre un garçon de bonne famille, où mes parents sont hyper heureux pour moi, l'apprécient, et je sens vraiment chez eux un réel soulagement. Je me dis, c'est super, cette relation peut exister. J'ai la possibilité de l'exprimer, de dire que je suis avec quelqu'un, rien que marcher dans la rue, normalement, sans avoir peur des regards. Puis on s'entend super bien. Moi, j'ai cru que j'avais rencontré l'homme de ma vie, que j'allais pouvoir me marier comme il fallait, avoir des enfants. Et puis finalement, bah, je pars faire mes études à Paris, à Bobigny. Donc mes parents, ça leur a été un peu compliqué d'aller à Bobigny. On était vraiment dans la campagne, donc ça refaisait un peu peur, la ville. Et pour faire des études d'assistante sociale. Et pendant ce temps, arrive la manif pour tous et ce grand projet du mariage pour tous. Et mes parents décident d'y aller, de manifester, d'aller à Paris et de manifester, de faire partie des cortèges. Et moi, je décide de les suivre. C'est la première fois que je manifestais dans ces cortèges assez joyeux, avec plein de pancartes, plein de couleurs, avec des familles qui ressemblent à ma famille. Je vis ce moment-là comme si vous êtes dans votre bain, la tête sous l'eau, et qu'il y a plein de bruit autour. Et du coup, j'ai un peu une image un peu floue de ces journées, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein, j'y suis allée peut-être trois fois. Je crois que c'était des dimanches, enfin, je sais plus. Et en fait, je suis prise par une violence, mais qui revenait un peu de l'intérieur, me dire, mais en fait, t'es qui? Enfin, je savais même pas pourquoi j'étais là, j'avais juste envie, en fait, qu'on me fiche la paix et de passer inaperçu. À cette époque-là, j'allais à la messe, et puis ils avaient fait une annonce en disant qu'ils pouvaient s'organiser, faire du covoiturage pour ceux qui voulaient aller manifester à Paris. Et je sais qu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait monté le ton et qui avait dit que si c'était ce genre d'annonce mis à la fin de la messe, qu'il ne viendrait plus. Et j'ai même pas osé le suivre, alors que je trouvais ça bien, que c'est pas parce qu'on va à la messe qu'on a tous les mêmes idées. Pendant ce moment-là, des manifs pour tous, je prends les arguments, j'essaye de les défendre. en défaveur de la loi. Hein. Je suis encore dans ma protection, à vouloir me cacher, à pas vouloir dire ce que je pense, et du coup à verbaliser des choses auxquelles je ne crois pas. Je suis arrivée avec le bac en poche, avec des mocassins, avec mes idées de droite, vraiment avec un style un peu la petite bourgeoise provinciale qui débarque à Bobigny. Et en fait, j'évolue et en fait, je rentre vraiment dans autre chose. Et puis après, la relation, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne me conviennent pas, que je ne suis pas forcément heureuse complètement. Et puis ça va vite parce que ça commence à parler mariage. Moi, j'ai 20 ans, j'ai peur en fait. Et j'ai envie de découvrir du monde, me faire des amis, enfin comme une vie de quelqu'un qui a 20 ans. Et du coup, la relation s'arrête. Mes parents vivent très mal ma rupture avec mon copain. Il le considérait comme un fils à part entière. Et puis, ils étaient tellement heureux pour moi. Et puis, je correspondais à tout point en ce qu'ils attendaient, entre guillemets, de moi. Ma maman avait dit une phrase en disant « Mais t'étais mon rayon de soleil. » En disant que je ne le suis plus maintenant. Donc, c'était assez dur. Et je continue, du coup, mes études à Nantes. Et puis, master en poche, j'ai mon premier job dans l'aide à domicile et je rencontre une de mes collègues qui s'appelle Isabelle en octobre 2016. Et puis moi, à l'époque, j'étais en coloc et mon colocataire part. Et du coup, elle prend la chambre de mon colocataire. Donc là, passe en colocation et là, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous. Nous nous mettons ensemble officiellement, je suis amoureuse et je dois rentrer pour Pâques dans ma famille car ma sœur aînée se fiance. Et là, je décide de dire à mes sœurs et à mon frère qu'en fait Isabelle n'est pas une colocataire et qu'on est ensemble, donc mes sœurs sont hyper heureuses pour moi. J'annonce pas à mes parents que je suis en couple avec Isabelle à ce moment-là. Parce que je me dis, je vais quand même attendre d'être sûre. Et donc, ça met du temps. Je crois que ça met 3 ans à leur annoncer. Et c'était avant le Covid, donc en 2020. Donc, je vais chez mes parents. Une de mes sœurs est présente pour me soutenir. Après la messe, on se lance dans cette annonce. Au moment du dessert, je revois mon père avec sa cafetière italienne. Et le projet avec ma sœur, c'était qu'elle me pose une question sur moi. Parce qu'en fait, pendant ces 10 ans, depuis ma rupture avec mon ancien copain, mes parents me posaient très très peu de questions sur ma vie. Et donc là, ma sœur me dit « Hé, Claire-Hélène, comment ça se passe ton travail au fait ?» Et je me mets à pleurer. Et mon père me regarde, je sens qu'il commence à pleurer aussi. Enfin, il y a un grand malaise. Et là, ma sœur dit, eh ben voilà, Claire-Hélène et Isabelle sont ensemble, elles sont en couple. Mon père lâche la cafetière, il dit, je m'en doutais, on s'en doutait. Quelques minutes après, il dit, non mais pour le moment, Claire-Hélène, ne fais rien, n'achète rien, t'engage pas, prends ton temps, réfléchis. En fait, c'est tout réfléchi, en fait, parce que ce que je leur dis pas, c'est qu'on a déjà acheté un appartement ensemble. Mais ça, je leur dis pas. Et que les choses sont déjà avancées et construites dans ma tête. Donc, je rentre à Nantes. Il se passe quelques mois et je reviens pour le mois d'août. Et là, je suis accueillie par mon père qui était en moisson. Il fait beau et il porte le t-shirt de la Manif pour tous. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, la Manif pour tous, elle a existé, parce que j'avais complètement oublié. C'était tellement passé, j'avais tellement vécu ce temps de manif d'une manière un peu en sous-marin, en soum-soum, là, que là, mais tout revient et tout... Et je me dis, non, mais Claire-Hélène, mais quel chemin t'as fait, en fait ? Et ensuite, après, je rentre à Nantes, etc. Avec Isa vient vraiment l'envie de nous marier. Elle me demande en fiançailles, elle me fait la surprise le 13 août 2021. Comme ça, on se dit, bah, on se mariera le 13 août 2022, pile poil un an après. Et là, du coup, oh là là, comment je vais leur annoncer ? Il faut repartir encore dans une annonce pas simple et il va falloir encore que je leur fasse de la peine. Donc en février, je rentre chez mes parents de nouveau pour fêter mon anniversaire. Mes frères et sœurs sont là. Et je me dis, bon bah, je vais avoir du soutien, je vais leur dire. Sauf qu'on passe un super week-end, c'est un super moment. J'ai envie de préserver ce moment-là en me disant, bah, peut-être qu'une fois qu'ils seront au courant, on se verra plus, quoi. Donc profitons comme si c'était l'un des derniers moments. Mais je me dis, Claire-Hélène, il faut vraiment qu'ils soient au courant. On est en février, c'est au mois d'août, tout est lancé, il faut leur dire, quoi. J'y arrive pas, ils m'accompagnent sur le quai de la gare. Et j'arrive pas, ça sort pas, je peux pas leur dire. Et du coup, je décide dans le train de leur faire un texto, de leur écrire que je vais me marier. Je les ai pas eu au téléphone depuis. Je leur ai envoyé nos faire part par la poste. J'ai pas eu de retour de leur part, rien. Et un jour, j'envoie une note vocale à mon papa en lui disant bah voilà que je suis hyper triste, que je me rends bien compte qu'il sera pas là. Et donc voilà, et il me répond avec une message vocale en me disant bah que cette union est de toute manière provocation et trahison, et qui me remercie en fait d'être pas mentionné sur le faire-part. Donc je comprends qu'ils ne seront pas là. Et je me suis quand même mariée le 13 août 2022 avec Isabelle. Et c'était une très belle journée. Voilà. Bah jusqu'à présent, avec mes parents, on n'a pas encore échangé de vive voix. À chaque fois, j'ai l'impression de monter, de redescendre un escalier sans fin. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man.
C'était Les enfants de la manif pour tous, un reportage de Clémence Alezard réalisé par Somaya Dabèche. Merci infiniment à Augustin, à Claire-Hélène ainsi qu'à Domiti, Rosène Le Carboulec et à Marie-Clémence Bordet-Niquez. C'est Céline Paris, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Rita Ruggirello, notre stagiaire. Another day, hey. And you don't have to hide away, yeah.